On va faire 100, je te ferai signe. Alors bonjour à tous, à toutes. Est-ce qu'on est libre de tout faire? Si on prend l'exemple de Corinthe, oui, il y a un mot en trop, hein, vous l'enlèverez. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais l'histoire de l'église de Corinthe est assez ahurissante. Paul a fondé cette communauté, puis comme à son habitude, il en est parti. C'était son projet missionnaire, il passait de ville en ville. Et au bout d'un certain temps, on a l'impression qu'après le départ de Paul, c'est vraiment parti en sucette. Il paraît que dans les prédications, on n'a pas le droit de homo interdit. Mais c'est un peu excessif. Il faut bien avoir en tête qu'il y avait beaucoup de domaines où l'église de Corinthe avait été dans la réussite. Cette église avait beaucoup de qualités. Paul signale qu'elle avait tous les dons. Alors là, je vais faire signe pour changer la slide. Même on pouvait dire que c'était une très belle église. C'était une église riche de tout don et de toute spiritualité. C'était une église généreuse. Au chapitre 16, je ne sais pas si vous l'avez lu, mais quand Paul parle de l'offrande qu'il faut faire pour soutenir les chrétiens qui étaient en Judée, eh bien on est sûr que l'église de Corinthe va répondre avec un gros chèque, car c'est une église généreuse. Une troisième qualité, c'est que cette générosité, ce n'était pas simplement financier, mais l'église partageait avec la ville de Corinthe sa plus grande richesse, le témoignage du Christ. C'est ce que dit Paul, là. Hein ? Le témoignage du Christ a été confirmé par vous. Et l'Église témoignait grâce à chacun de ses membres. Chacun était actif pour faire connaître l'Évangile dans sa zone d'influence. Et l'Église progressait en nombre à un grand rythme. C'est une énorme qualité. En revanche, on pourrait dire que l'Église grossissait en nombre, mais elle ne grandissait pas suffisamment en profondeur. Et c'est le but de la lettre que Paul écrit, c'est qu'il veut que l'Église grandisse en profondeur. Et Paul est confiant pour ça. Il déclare que ce n'est pas eux qui allaient le faire. Hein, mais regardez, c'est Jésus. C'est Jésus qui va affermir cette église de Corinthe. C'est ça l'espoir de Paul. Alors dans toute chose, y compris dans les églises, il faut savoir regarder le verre à moitié plein ou à moitié vide. Reconnaître les défauts pour que ce soit des points d'amélioration. Mais aussi discerner les qualités pour les encourager. Hop. Alors une fois parti, Paul n'a pas tourné le dos à l'église de Corinthe. Il a continué à prendre soin d'elle, par courrier. Il ne les laisse pas tomber. Et c'est très moderne, et on a de la chance qu'ils aient vécu à une autre époque que celle des téléphones portables. Sinon on n'aurait aucune trace. Mais là on a une lettre entière, on a même une deuxième. Et puis on apprend en lisant le texte que ce n'était pas tout à fait la première, il leur avait déjà écrit. Et les Corinthiens, ils avaient écrit à Paul en disant « On a tel problème, donne-nous ton point de vue ». Et puis une fois que Paul est parti à Corinthe, il y a eu de nombreux ministères itinérants, comme ça se faisait à cette époque. Il y a eu Pierre qui est passé, il y a eu Apollos, il y en a eu d'autres. Ah, je ne sais pas si vous vous rappelez, je vais vous taquiner un peu, mais c'était le sujet de la prédication de la semaine dernière. Ah bon, il y avait une prédication la semaine dernière ? Alors, vous savez que les prédications, c'est juste pas pour combler la deuxième partie du culte, hein, ou pour attribuer une note à la fin, hein. Mais le but, c'est que le message vienne en nous et nous transforme. C'est un peu ambitieux, je sais. Je referme la parenthèse. Alors, il y a plusieurs exemples frappants de désordre à Corinthe. On pourrait dire ça avec plusieurs mots. Désordre, fanfaronnade, erreur, scandale, confusion, désorganisation, débandade, un grand bazar, pour rester poli. Dans le vocabulaire biblique, on a des mots pour ça. Il y a le mot tohu-bohu. Vous vous rappelez dans la Genèse? Et puis à l'époque de Jésus, il y avait un autre nom qui signifiait ce grand bazar. C'était le Capharnaüm. Capharnaüm, c'était la ville où habitait Jésus. Alors, dans tous ces exemples que Paul donne pour essayer de rétablir, Ben, on va en prendre deux ce matin. Les précédentes prédications, c'était sur les chapitres 1 à 4. Là, aujourd'hui, on va regarder ensemble le chapitre 5 et 6. Alors, on va pas tout lire, parce que ça ferait trop long, mais on va regarder des passages. Alors, on peut passer slide numéro 4. Voilà. Alors, un peu choc, quoi. Mais Paul reproche dans l'Église, il se passe un truc, là. Et ça ne choque personne dans l'Église. Au contraire, ils sont tous fiers de ça. Ils s'en vantent. Et Paul est stupéfait, même parmi les nations, chez les autres peuples, on ne trouve pas une pareille chose. Chez les Juifs, c'était interdit. Chez les Romains aussi, la loi romaine interdisait qu'un homme puisse avoir la femme de son père, ou dans l'autre sens aussi. Ça, c'est le premier truc. Chapitre 6, slide 5, Paul s'exaspère, car il a appris que deux frères de l'Église se sont disputés. On ne sait pas trop, peut-être c'est pour des histoires d'argent, on ne sait pas trop. Bref, mais ça allait si loin qu'ils sont maintenant au tribunal. Et là encore, personne ne moufte dans l'Église. Ça choque personne. Et à la fin du chapitre 6, vous allez tomber de votre chaise, on lit que Paul demande à certains de l'Église d'arrêter d'aller voir les prostituées. Non mais on est où là? À mon avis, ils ne sont pas allés que les voir. Je ne sais pas, ça vous choque ces sujets ce matin? J'ai un peu peur. Alors on est au tout début de la prédication, je ne voudrais pas que vos oreilles se referment parce qu'elles sont trop choquées pendant la prochaine demi-heure. Je suis conscient que j'aborde des sujets un peu olé-olé, pas très habituels pour une prédication qui se respecte. Et moi je trouve que ça commence à devenir intéressant. Alors je vais vous demander un effort d'imagination ce matin, à quoi ça ressemble tout ça? Ben, je vais vous donner un exemple. Moi, je trouve qu'on dirait un feuilleton télévisé très célèbre. Je vous lis le résumé de l'épisode 2365, diffusé vendredi dernier sur TF1. S'il vous plaît, slide. Victor menace Ashley et William de faire condamner son fils Jack, car ce dernier a passé la nuit avec Shirley. Shirley arrive. Son attitude désinvolte surprend sa famille, qui ne se doute pas qu'elle a mis fin à sa relation avec Victor pour aller dans les bras de Jack, le fils de Victor. Sharon n'y croit pas et elle met en garde Dylan contre de nouvelles ingérences dans son enquête. Neil passe au tribunal et il prend la responsabilité de l'incident à son compte, tout en précisant qu'il était sous l'emprise de l'alcool. Alors, quand on regarde ce qui se passe à Corinthe et quand on regarde ce qui se passe dans notre monde, qui peut dire que les histoires de la Bible sont vieilles et périmées? Elles ont tout à voir avec la vie moderne. Alors vous avez compris que Paul essaie de réparer les dégâts tout au long de sa lettre. Il explique aux Corinthiens qu'il faut remettre de l'ordre, qu'il faut arrêter le tout et le n'importe quoi. Et on se rend compte que ces gens donc étaient des gros vantards, orgueilleux, qui pensaient qu'ils avaient tout compris, et que rien ne pouvait les empêcher de faire tout ce qu'ils voulaient, et si possible, n'importe quoi. Mais on a un gros problème, Houston. On pourrait avoir l'impression que Paul s'y prend mal. Il écrit 4 fois un truc complètement bizarre. 4 fois, il répète la phrase qui tue et qui ne va rien résoudre. Moi, je vous propose qu'on regarde au chapitre 10, au verset 23. Les 3 premiers mots, Paul dit « Tout est permis ». Et il le répète « Tout est permis ». Et au chapitre 6, verset 12, il le redit « Tout est permis ». C'est répété 2 fois, là encore. 4 fois, il leur dit « Tout est permis ». Alors bien sûr, Paul donne des précisions, on les regardera tout à l'heure plus en détail, mais il redit 4 fois « Tout est permis ». « Tout est permis ». « Tout est permis ». Tout est permis. Comment voulez-vous que les Corinthiens s'y retrouvent avec ça? Comment voulez-vous qu'ils se reprennent en main? Alors c'est de ça dont j'aimerais parler ce matin. Est-ce que vraiment tout est permis? Vous savez, on vit sous la grâce de Dieu. Comment s'y retrouver dans ce méli-mélo? Alors j'ai planté le décor ce matin sur un gros problème de mœurs, d'attaque au tribunal et de fréquentation de péripatéticiennes. Paul Marcel à ses amis de Corinthe, tout est permis. On est face à un truc énorme là. Que faut-il en comprendre ? Alors ce matin, vous l'avez compris, le sujet qu'on va aborder, c'est la liberté chrétienne. C'est un véritable sujet de fond. Et à la fois, ça reste très pratique et concret. D'abord, est-ce que c'est vrai que le chrétien est libre ? Alors on va mettre la slide 8. On le lit dans la Bible, il y a énormément de versets. On le chante, ce matin je comptais dans les chants, on l'a au moins chanté dans 3 chants différents. Et puis surtout, on le vit profondément. C'est viscéral chez nous, la liberté. Ma liberté est plus importante que tout le reste. Et chez les Corinthiens, c'était pareil. Le gars qui s'est enamouraché de la femme de son père, ben, il était bien libre lui aussi, non ? Alors, 9, qu'en pensent les gens de la rue ? Supposez que vous descendiez dans la rue et vous demandez aux gens « Bonjour madame, est-ce que vous pensez que les chrétiens sont des gens libres ?» Alors, on pourrait obtenir plusieurs réponses amusantes. La première, c'est « Oui, ils sont libres de croire ce qu'ils veulent, du moment qu'ils ne nous cassent pas les pieds avec leur bon Dieu. » Bon, merci madame. Je passe à la personne suivante. La personne suivante, elle nous dit « Libres les chrétiens ? Mais vous rigolez ? Ils ont le droit de rien faire, ne pas boire, ne pas fumer, ne pas coucher, ne pas voler, ne pas s'amuser, rien du tout. Allez, vous m'avez bien fait rire avec votre question. » Dans le passé, et encore il n'y a pas tellement longtemps, le christianisme, ça a été la religion des « il ne faut pas, tu ne dois pas ». Et la majorité des gens de notre époque a tourné le dos au christianisme à cause de ça, et c'est une catastrophe. Numéro 10, c'est pas du tout le plan de Dieu. La liberté fait partie du plan de Dieu. Lorsque Dieu créa l'humanité, il lui a fait le cadeau de la liberté. Dieu créa l'humain à son image, libre. Mais l'humanité n'a pas voulu que l'homme soit libre. Et tout de suite sont apparus les tyrans, les dictateurs, les chefs, les empêcheurs de tourner en rond, les esclavagistes, etc. Ah, notre liberté chérie! Alors on pourrait penser que c'est notre société moderne qui l'a inventée. Eh bien non. À quoi sait-on que Dieu a créé l'humanité libre ? Dieu a dit à Adam, tu peux manger de tous les fruits du jardin. Tous, sauf un. Alors combien de fruits ? Des centaines ? Des milliers ? Adam est libre de manger de tous, sauf un. Vous voyez ? 1000 libertés, une restriction. C'est un principe qu'on trouve ailleurs dans l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, on a le droit de tout faire. Il y a juste quelques petits trucs en particulier qu'on nous demande d'éviter. Tiens, vous rappelez ça, hein, ce qu'on appelle les 10 paroles, les 10 commandements. Tu es libre de tout. Et dans ces 10 commandements, il y a 6 choses qui sont défendues. Seulement 6 petites choses. Et tu peux faire tout le reste. C'est ça la liberté. Et d'un point de vue, on peut comprendre que les 10 commandements, c'est plus des conseils de vie de la part de Dieu. Si tu suis mes conseils, ta vie sera réussie, tu seras heureux. Prenons un exemple. Construire sa vie sur un mensonge, ça mène à quoi ? Construire sa vie dans la recherche effrénée de ce qu'on n'a pas, hein, ce que la Bible appelle la convoitise, est-ce que c'est vraiment la vie qui vaut la peine d'être vécue ? On passe à la 11. Alors dans notre société, la liberté, c'est une valeur forte. En France, on en a même fait notre devise nationale. En Occident, on a une extrême liberté si on se compare à d'autres pays. Regardez en Iran, hein, les actualités en parlent. En Arabie Saoudite, en Inde, si on n'est pas dans la bonne caste, en Corée du Nord, quelle liberté dans ces pays ? Et d'où vient ce goût pour la liberté dans notre société ? Eh bien, ne nous y trompons pas, ça vient de l'Évangile. Cette notion de liberté vient de l'Évangile. C'est depuis l'influence de la Réforme, il y a 500 ans, au XVIe siècle. La Réforme a transformé les sociétés occidentales en apportant la liberté civile et la liberté religieuse. La vague de liberté provenant de la redécouverte de l'Évangile est devenue une valeur de notre société. L'importance de la liberté individuelle. Et ça, c'est un bienfait de Dieu pour l'humanité. Dans d'autres sociétés, par exemple le Japon, L'individu, il n'a aucune valeur. C'est la nation qui prime. Chez nous, en France, c'est le contraire. L'individu est le plus important que la nation ou que le groupe. Et ça devient excessif. Certains appellent ça le moi souverain. Le moi doit réaliser ses rêves, exprimer ce qu'il est. Notre société nous dit que nous devons identifier nos désirs et les satisfaire. Le problème, c'est que nos désirs les plus profonds, ils sont souvent contradictoires. Et si on va que dans cette voie, on a deux écueils. Soit on tombe dans le narcissisme le plus complet, ou à l'inverse, on se prend d'une aversion et d'une haine de soi importante. Alors notre liberté chérie. Bien sûr, notre société est devenue excessive en se séparant de la source de vie qu'est Dieu. Et les méfaits d'une liberté excessive et débridée se feront observer à mille endroits. Alors nous, en tant que chrétiens, la question qu'il faut qu'on se pose, c'est est-ce que je suis attaché à la liberté à la manière de la société ou est-ce que je suis attaché à la liberté à la manière de Dieu? Alors 12, on va voir que la liberté a toujours des limites. Dans notre société, même si elle est beaucoup plus permissive, il y a des limites. Ben déjà, les deux premières limites, c'est ce qui est défendu. Et c'est le rôle de la loi. La loi, elle nous indique ce qui est défendu. Ça va des choses les plus simples aux choses les plus compliquées. Et c'est la loi qui contraint et qui réduit notre liberté. La loi nous défend de passer au feu rouge. Pourtant, quand je suis pressé, j'aimerais bien passer au feu rouge. La loi nous défend de faire notre propre justice. La loi, tout à l'heure, Norbert disait que les déclarations d'impôts étaient arrivées, mais la loi, elle nous retire la liberté d'utiliser notre argent comme on veut. Il y a une partie non négligeable qui va aux impôts, et la loi nous oblige à payer. Alors vous connaissez le fameux mot de Jean-Yann, hein ? J'ai voulu payer mes impôts avec le sourire, mais le fisc a préféré un chèque. Donc la loi, elle est là pour limiter notre liberté. Et il n'y a pas que les choses défendues qui limitent notre liberté, mais il y a aussi les valeurs de la société. On connaît tous cette maxime qui est dans la Déclaration des droits de l'homme. La liberté des uns s'arrête là où elle empêche celle des autres. C'est une valeur très forte. Et parfois même, nos choix de vie nous imposent des restrictions de liberté. On va réduire notre liberté pour pouvoir acquérir quelque chose de supérieur. Alors, je vais prendre trois exemples. On vient de terminer les Jeux Olympiques à Pyeongchang. Et maintenant, on se prépare pour les Jeux Olympiques de Tokyo en 2020. Et les sportifs de haut niveau qui se préparent pour ça, fini de rigoler pour eux. Ils vont passer 2 ans à se priver de liberté pour pouvoir s'entraîner à fond. Fini les sorties au cinéma, la bonne bière, les bons repas. Non, ils vont vivre comme des ascètes, comme des sortes de moines sportifs. Ils vont réduire leur liberté de vie pour se consacrer à développer la musculature, augmenter les capacités respiratoires, diminuer la masse graisseuse, accélérer les performances, motiver le mental, etc. pour qu'en 2020, ils arrivent à Tokyo au top. Deuxième exemple, le travail. Parce que les athlètes, il n'y a pas que des athlètes parmi nous. Mais le travail, on y est tous confrontés. Et on est tous obligés d'accepter de restreindre notre liberté 7 ou 8 heures par jour, 35 ou 40 ou 50 heures par semaine, etc. pour aller travailler. Alors pour certains, c'est juste alimentaire. Pour d'autres, c'est un projet de vie. Prenons les médecins, par exemple, ou les paramédicaux. Leur objectif de vie, c'est de soigner, de soulager, d'apporter du réconfort. Et c'est très respectable. Prenons le boulanger. Nous, on aime bien dormir jusqu'à 7h du matin. Lui, il choisit d'arrêter sa liberté de dormir jusqu'à 7h du matin. Et à 3h, il est en train de faire cuire son pain pour qu'il soit tout frais pour notre petit déjeuner. Un troisième exemple, les amoureux. Un jeune homme et une jeune femme sont fous amoureux l'un de l'autre. Et ils décident de se marier pour fonder un foyer. C'est magnifique. Mais c'est une énorme entrave à la liberté de chacun. Et oui, ils vont devoir choisir qu'est-ce qu'ils font les week-ends ensemble. Alors lui, le week-end, il aime aller voir les matchs de rugby avec ses potes, boire des bières après, jusqu'à plus d'heure. Elle aime partir avec ses copines du lycée, avec qui elle a gardé contact, pour visiter les capitales européennes et faire du shopping. Mais c'est fini, ça. Sur le plan financier, ben, il va falloir qu'ils discutent de leur budget tous les deux. Et je ne vous raconte pas la perte de liberté quand le premier enfant va arriver. Hein, ces trois exemples de la vie nous montrent bien que la liberté n'est pas une valeur absolue, mais que nous acceptons de la réduire pour obtenir des choses ou des situations qui ont plus de valeur. Alors, je n'ai pas choisi ces trois exemples au hasard, car ils ont aussi un retentissement dans le domaine spirituel. Dans la Bible, on les trouve souvent. L'athlète qui veut réussir sa course et qui s'en donne les moyens, ça nous parle, en tant que chrétiens, de réorganiser notre vie et de nous discipliner pour vivre la foi et l'évangile de manière cohérente, limiter notre liberté pour entrer dans notre destinée d'enfant de Dieu. L'engagement dans le travail, ça nous parle de limiter notre responsabilité pour accepter dans le travail du royaume de Dieu, devenir ouvrier avec Dieu, des ambassadeurs dans le monde. Le dernier exemple, c'est l'exemple de l'amour. C'est le plus évident pour les chrétiens. L'amour plus important que notre petite liberté individuelle. Le plus grand exemple, c'est Jésus qui, par amour, s'est dépouillé de sa liberté divine pour devenir un être humain et nous sauver. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Alors nous faisons tous des choix qui entravent notre liberté, car nous pensons que l'objectif est plus important que notre liberté chérie. Et c'est ce que Paul veut nous faire comprendre. C'est valable pour notre vie chrétienne aussi. On est toujours dans une liberté encadrée. Tout est permis. Oui, tu as une liberté entière, mais dans certains domaines, il est valable que tu la limites pour obtenir des choses qui ont plus de valeur. Voilà pourquoi Paul répète « Tout est permis, tout est permis ». On peut passer au 13. Dieu nous a offert de retrouver la liberté de notre vie attachée à Christ. Mais tout n'est pas utile, tout n'est pas avantageux, c'est ce que Paul dit. Et c'est avantageux de limiter notre liberté pour obtenir quelque chose de supérieur. Alors on passe au 14. Il y a un point qu'il faut aborder. C'est beau de parler de la société, mais soyons concrets. Est-ce qu'on est libre de pécher ? Ben, la vraie question, elle est là. Et bien la vraie réponse, c'est oui, tu es libre. Il n'y a personne qui va t'en empêcher. C'est ta responsabilité. Si tu ne te retiens pas, personne ne va te retenir. Alors Paul aborde ça dans le chapitre 6. On va passer à la slide 15. Et c'est notre texte de ce matin. Simplement, on lit quelques versets avant. Donc il critique les deux qui sont en procès en disant qu'ils sont injustes l'un envers l'autre. Hein ? Il leur dit ça. C'est vous qui pratiquez l'injustice. Les injustes n'hériteront pas le royaume de Dieu. Ne vous égarez pas. Ce ne sont pas ceux qui se livrent à l'inconduite sexuelle, à l'idolâtrie, à l'adultère, les hommes qui couchent avec des hommes, les voleurs, les gens avides, les ivrognes, ceux qui s'adonnent aux insultes ou à la rapacité qui hériteront le royaume de Dieu. Et pourtant, c'est là ce que vous étiez quelques-uns d'entre vous. Et c'était les Corinthiens. Hein. Mais vous avez été lavés, vous avez été consacrés, vous avez été justifiés par le nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Tout est permis, mais tout n'est pas utile. C'est notre texte de ce matin. Alors on comprend bien que Paul déclare que le royaume de Dieu n'est pas donné en héritage à ceux qui commettent toutes ces choses. Alors le royaume de Dieu, vous rappelez, c'est pour le futur, hein, c'est la fin des temps, mais c'est aussi ici et maintenant. Alors on comprend bien que pour être sauvé, il faut avoir été lavé, sanctifié, justifié par la foi en l'œuvre de Jésus et par l'action du Saint-Esprit. Paul rappelle aux Corinthiens qu'ils étaient des pécheurs. C'est intéressant de voir qu'il ne fait pas la liste des péchés, mais la liste des pécheurs. Mais il s'agit aussi du royaume, ici et maintenant, dans notre vie. Et on pourrait dire en quelque sorte que quand on pratique ces choses, c'est comme si on sortait du royaume. Le mot héritage est bien choisi par Paul. Quand on hérite, on reçoit un patrimoine, un héritage. Alors ça peut être des maisons, de l'argent, des titres, des meubles, etc. Et ce patrimoine, il devient le nôtre et on vit avec. On en fait ce qu'on veut. Ben, le royaume de Dieu, l'héritage du royaume de Dieu, c'est un patrimoine. Et en quelque sorte, quand on commet une de ces choses, ça nous fait sortir du royaume. On retourne au dehors. C'est notre choix. Prenons un exemple. La France, ce n'est pas un royaume. C'est encore moins le royaume de Dieu. Vous êtes d'accord avec moi? Et pourtant, les migrants de tout pays veulent y venir car ils pensent qu'ils vont y trouver à manger, du travail ou une situation politique stable différente de la guerre ou de la misère de leur pays. C'est une réalité. Arrivés en France, on les prend un peu en charge, par fraternité. C'est notre devise. Alors bien sûr, on pourrait faire plus. Certains pensent qu'il faudrait faire moins. Je ne fais pas ce débat ce matin. Je reste dans l'exemple. Si le migrant repart parce qu'il va dans un autre pays, ben il ne bénéficie plus de l'aide que la France lui apporte. Des fois, le migrant il est exclu pour une raison ou pour une autre. Et il ne bénéficie plus non plus de l'aide. Quand il est sorti des frontières, il essaie d'y revenir pour bénéficier à nouveau de l'aide. Et c'est ça l'image de l'héritage du royaume de Dieu. Si tu pratiques des choses qui te font sortir du royaume, tu ne bénéficies plus de ce qui est dans le royaume. Bien sûr, la grâce de Dieu va te pousser à y revenir. Et Dieu enclenche un processus. Mais tu auras perdu du temps. Tu auras besoin de faire un chemin intérieur pour revenir à Dieu. Un trajet de repentance, de demande de pardon. Tu ne seras vraiment pas fier de toi. Si tu as blessé des personnes, ça va te coûter d'aller les voir et de leur demander pardon. Et puis si tu sors du royaume, tu vas te blesser toi-même. Et tu devras repasser par des étapes que tu as déjà parcourues. Tu perds du temps, tu tournes en rond, tu gâches ta vie. Alors oui, tout est permis, c'est une possibilité, mais Dieu ne va pas te laisser tomber. Mais toi, limite-toi, ne sors pas du royaume, restreins ta liberté. On passe à la 17. Ne nous trompons pas, quand Paul dit qu'il faut exclure le gars qui couche avec l'ex de son père, c'est un cas de force majeure. Paul savait que la communauté de Corinthe, comme celle de Nîmes, est loin d'être constituée de gens sans péché, de gens parfaits. Non, l'Église est constituée de pécheurs pardonnés, lavés, sanctifiés, qui se débattent et qui sont en cours de guérison et en chemin, qui ne sont pas arrivés. Rappelez-vous cette phrase, elle n'est pas de moi. Si tous les pécheurs étaient exclus de l'Église, il ne resterait plus personne. Le souci de Paul, ce n'est pas de purifier l'Église en retirant tous les membres corrompus, c'est de guérir le corps en guérissant les malades. À chaque fois, Paul rappelle la source du salut, l'œuvre de Jésus, qui accueille le pécheur pour le laver, le justifier, le sanctifier. Ici, Paul utilise l'image du levain dont il faut se purifier. Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte? Faites donc disparaître tout le vin du milieu de vous, afin que vous soyez comme une pâte nouvelle. Alors, dans le chapitre 5, Paul, et dans le chapitre 6, Paul, il aborde un sujet très particulier. Paul, il appelle ça, suivant les traductions, on lit l'immoralité, la débauche, l'inconduite. Bon. C'est des mots un peu faibles à notre époque. À passer à la 18, s'il vous plaît. Car on ne les utilise plus. C'est des vieux mots qui ne veulent plus dire grand-chose de nos jours. On a l'impression que les traducteurs de la Bible, ils sont un peu frileux. Ils n'osent pas parler crûment. Pour trouver des mots, il y en a toute une liste là, que je vous ai mis. Impudicité, libertinage, indécence, paillardise, débauche, obscénité, vice, cochonnerie, luxure, désordre sexuel, etc. Pour Paul, qui était un bon juif instruit selon l'Ancien Testament, ça représente toute pratique sexuelle en dehors du mariage. Alors le mot grec que Paul utilise dans le texte, il nous parle, c'est le mot porneia. Dans le grec, ça désignait non seulement la prostitution, mais aussi toute pratique sexuelle en dehors du mariage. Alors porneia, vous voyez tout de suite à quoi je veux faire allusion. Dans notre monde moderne, ça a donné porno, pornographie. on reste vraiment sur les mêmes sujets. À Corinthe, on ne se rend pas bien compte, mais les historiens décrivent qu'il y avait plus de 1000 prostituées sacrées sur l'Acro-Corinthe, un endroit à Corinthe. Excusez-moi, mais vous imaginez le lupanar géant à l'air libre, là ? Et il y en avait pour tout le monde. Il y avait des prêtresses sacrées qui attendaient ces messieurs dans les temples païens. Il y avait aussi des prêtres sacrés qui attendaient ces dames dans les temples païens. C'était un fait généralisé. Ça touchait tout le monde, et puis c'était pas que dans les temples païens. Corinthe, c'était une ville portuaire, si vous voyez ce que je veux dire. Alors à notre époque, on a réussi à faire une merveille de technologie. On adresse le sujet sur un petit écran pour ces messieurs, ou dans les romans harlequins ou autres pour ces dames. Ça nous concerne tout autant aujourd'hui, même peut-être davantage qu'à Corinthe. C'est partout, accessible 24 heures sur 24 sur Internet, en totale gratuité. Une étude du Figaro en mars 2007 démontre qu'un tiers des 13-14 ans a déjà vu un film X. Vous vous rendez compte ? Un enfant sur 7 à partir de 11 ou 12 ans. Certains consomment ça depuis leur toute jeune adolescence. Certains en sont complètement addicts, esclaves. Numéro 20. Alors ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Dans ce domaine, il ne faut surtout pas devenir des puritains dédaigneux ou des sortes d'humains complètement asexués. Il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. La sexualité est un don de Dieu pour l'humanité. La pornoïa, c'est le désordre, pour ne pas dire autre chose dans ce domaine. 21, s'il vous plaît. Paul déclare, la pornoïa, c'est comme du levain. Un peu de levain fait lever toute la pâte. Que veut dire Paul ? Qu'un peu de pornéa dans notre vie risque de tout compromettre et de tout gâcher. Il faut réagir. Mais que faire ? 22. Paul nous parle de levain. Il ne fait pas que de la cuisine. Il rappelle les réalités acquises par Jésus à la croix. Christ est notre Pâques. Pâques, c'est la fête des pains sans levain. Faites disparaître toute trace de levain de pornéa dans votre vie. Par la Pâque, par la mort et la résurrection de Jésus. C'est Jésus qui a le pouvoir de nous en libérer. C'est lui, l'agneau de la Pâque, qui offre son sang pour ta liberté. L'idée du levain, c'est que c'est la nature du péché de se diffuser dans notre vie. Si tu tolères un petit peu dans ta vie, c'est toute ta vie qui risque d'être infectée. Tout est permis, tout n'est pas utile. Tout est permis, mais je ne veux pas me placer sous un esclavage. Certains deviennent accros, addicts à la pornographie, quelle que soit sa forme. Chez certains, il n'y a pas besoin d'être devant un écran. Tout se passe déjà dans la tête, à l'intérieur. Alors que faire pour s'en libérer ? Comme pour beaucoup de choses qui nous entravent, on y arrive rarement seul. La première étape, c'est déjà d'arrêter de faire comme si ce n'était pas un problème. Comme si ce n'était pas grave. Peut-être tu te penses, pas vu, pas pris. Non, un peu de levain te met en danger. Alors, quand tu as le courage de faire le constat que tu as un problème, déjà commence par demander de l'aide à Dieu, qui te voit dans le secret et qui veut t'aider. La deuxième étape, c'est de trouver de l'aide auprès d'un frère ou d'une sœur, si possible plus âgé et surtout en qui tu as confiance. Et tu lui confies ton besoin d'aide. Il va te soutenir. Il va t'aider à t'en sortir. Sortir du secret, c'est déjà avoir fait une bonne partie du chemin. C'est Bonhoeffer qui dit que le Christ dans ton frère est plus fort que le Christ en toi. C'est pour ça qu'on a besoin de faire appel à quelqu'un. Bien sûr, la solution, elle se trouve dans la prière aussi. Alors, je ne vais pas vous demander ce matin qui c'est qui a le problème. Non, ça reste totalement confidentiel. Mais je vous invite tous à baisser la tête et à prier avec moi, maintenant, intérieurement, si tu es concerné et surtout si tu veux en sortir. Mon Père, mon Dieu, toi qui es l'ami des hommes et des femmes, toi qui es le Dieu qui me vient en aide, je viens devant toi maintenant pour te confier ce sujet confidentiel de la pornographie, de la pornéia dans toutes ses formes, qui est installé dans ma vie. J'ai besoin de ton aide. Viens à mon secours. Je sais que tu m'accueilles et que tu es prêt à me laver, me purifier, me sanctifier au nom de Jésus et par ton esprit. Viens m'aider à me débarrasser de ce levain qui contamine toute ma vie. Toi qui es l'agneau qui ôte le péché du monde et de ma vie. Fais-moi le cadeau de trouver un frère ou une sœur qui pourra m'aider dès cette semaine. Amen. Bon, on avance ce matin, on a fait un grand pas. On a parlé de la liberté chrétienne, de la tension entre le tout est permis et la tentation du péché. On a parlé de la pornéia. On pourrait s'arrêter là, mais j'ai encore deux petites choses à vous dire. Vous tenez le coup ? Il y a un autre aspect de la liberté chrétienne. Et c'est un des points les plus importants que Paul souligne dans le chapitre 5 et 6. Il y a un enjeu qui est bien au-dessus. C'est lequel, selon vous ? Alors, on va regarder la slide 23. On entend dire partout. Paul dit aux Corinthiens que dans toutes les églises, cette histoire de ce gars-là et de la... On entend dire partout, mais pas que dans les églises, y compris en dehors. Et le comportement de cet homme, il jette la honte sur toute la communauté de Corinthe, sur l'évangile, et ça impacte la puissance de l'annonce de l'évangile. Vous comprenez pourquoi ? Et c'est pareil pour l'histoire du procès. Paul le reproche, en tant que frère, vous auriez dû déjà vous mettre d'accord, accepter de réduire votre liberté, votre droit individuel, pour trouver un chemin d'entente avec vous. Et vous n'avez même pas trouvé quelqu'un au sein de l'Église qui peut vous apporter sa sagesse et régler l'affaire. Non, vous avez tout mis sur la place publique, dans votre orgueil, dans votre entêtement. C'est une calamité pour l'image de l'Église, pour l'Évangile. Imaginez ce que les non-croyants vont penser. Les chrétiens sont incapables de trouver des arrangements. Il n'y a personne qui peut les aider là-dedans. Et il faut appel à l'extérieur. Vous vous rendez compte ? La slide 24. Dans les deux cas, les personnes en dehors de l'Église peuvent dire « Voyez les chrétiens comme ils sont surprenants et surtout méprisables. » Ce qui aggrave la faute de ces quelques personnes, c'est que leur action discrédite l'Église de Jésus-Christ dans son ensemble et affaiblit sérieusement son témoignage dans la société. Et c'est un véritable défi à relever pour nous au XXIe siècle. On subit les conséquences de 20 siècles de christianisme bafoué, pas bafoué par les non-croyants, bafoué par les chrétiens, par les croyants. Rappelez-vous ce que Nietzsche disait, ce qui m'empêche de croire, c'est les croyants. Notre liberté chérie peut coûter cher à l'évangile et à la propagation du royaume de Dieu. Un autre défi que je voudrais vous signaler ce matin, c'est la 25, je vais le faire rapidement. Même si c'est primordial d'y répondre chacun de nous. À quoi sert ta liberté chrétienne aujourd'hui ? Ou plutôt, c'est la même question formulée différemment, vers quoi vas-tu l'utiliser avec perspicacité ? Paul répond dans ce passage, tu es libre de tout. Utilise ta liberté, mais ne te remets pas sous un esclavage ou quelque chose qui n'est pas utile. Dans le chapitre 10, 23, il dit même « Tout n'est pas utile à faire grandir la foi. Tout n'édifie pas » dans les traductions plus anciennes. « Tout n'est pas constructif. » C'est ça que Paul veut dire. « Tout est permis, mais tout n'est pas constructif. » Alors dans notre Église, ici, on a une belle liberté de service, d'expression des dons, de la diversité. Hein, c'est excellent. Mais est-ce que tout est constructif ? Certains disent « Ah, il faudrait plus de louanges ». D'autres disent « Non, il faudrait plus d'enseignements ». D'autres disent « Il faudrait plus de communion fraternelle ». D'autres disent « Plus de ceci, plus de cela », etc. Et des fois, on a l'impression que chacun tire la couverture à soi. Ce dont nous avons besoin, c'est d'accepter de restreindre notre liberté pour notre objectif commun. Il est sur la slide 26. Et cet objectif, ce n'est pas à nous de le fixer, même pas en tant qu'Église. Il est déjà fixé, c'est le Christ lui-même qui nous l'a donné. Aller par tout le monde. C'est ça à quoi Dieu nous appelle. Ce n'est pas de nous retrouver entre nous pour faire du bien. Non, c'est d'aller rencontrer les non-croyants, leur annoncer la grâce de Dieu. Tout le Nouveau Testament, c'est cette invitation-là. Paul y déclare à Timothée, fais l'œuvre d'un évangéliste. Malgré tous les reproches que Paul adresse aux Corinthiens, il sait aussi les encourager. Vous avez montré votre capacité de répondre à l'expansion de l'évangile. Arrêtez maintenant ce qui vous affaiblit et continuez. Plusieurs reprises, il leur dit, devenez mes imitateurs. Paul, il avait accepté de réduire sa liberté pour se donner à fond. Il avait donné toute sa vie pour faire connaître l'amour de Dieu révélé en Jésus-Christ. Devenez mes imitateurs. Alors là, avec la 27, on arrive à la fin. Merci d'avoir tenu le coup. Nous avons parlé de la liberté chrétienne. Quelle est dans le plan de Dieu ? La liberté pour l'humanité, ça fait partie du plan de Dieu. Et nous avons vu que cette liberté, elle a deux limites. Ce qui est défendu par la loi, que ce soit dans notre société ou dans notre vie spirituelle, parce que Dieu nous donne des lois aussi pour nous guider. Et puis la deuxième limite, c'est celle que je me fixe à moi-même pour obtenir quelque chose de meilleur, qui a plus de valeur que ma propre liberté. Ça peut être m'imposer une vie de discipline, comme l'athlète, pour grandir spirituellement et avancer dans la foi. Ça, c'est constructif. Ça peut être de m'engager dans un travail pour servir Dieu plutôt que de perdre mon temps dans des occupations banales qui consomment mon temps libre à des choses peu utiles. Et puis la troisième voie, hein, ça peut être celle de réduire ma liberté pour manifester l'amour démontré en Jésus. Nous avons vu que la vie chrétienne, où tout est permis, c'est aussi une responsabilité, celle de rester dans les frontières du royaume. Et si on en est sorti, Dieu nous relève et nous invite à revenir. Nous avons vu que certains ferments de notre société, alors la société c'est jamais que le reflet de la nature humaine, hein, sont du levain qui fermente dans notre vie et nous avons commencé à l'extirper de notre vie pour répondre à l'invitation de Paul et du Christ lui-même. Et pour finir, nous avons rapidement abordé la question du témoignage général de l'Église et comment tu peux décider de réduire ta liberté individuelle pour devenir, dans ta zone d'influence, un témoin du Christ efficace, discipliné, actif par son travail et rempli d'amour. La liberté fait partie du plan de Dieu. La liberté chrétienne nous pousse à diminuer notre liberté pour aimer, pour faire connaître ce que Dieu offre. Puis je vais finir avec le 28, cette citation de saint Augustin, « Aime et fais ce que tu veux ». Puis je voudrais rappeler les paroles qu'on a reçues ce matin. « Lève-toi et marche. Vas-y maintenant. Va avec la force que tu as. » Merci pour votre attention.
Merci Loïc pour ce tour complet au sujet de la liberté chrétienne dans l'Épître aux Corinthiens. Voilà, je vous conseille de réécouter peut-être ce message à tête reposée, de vous laisser toucher par tout.